La suite dans les idées, Sylvain Bourneau. Une grande partie de l'histoire de la sociologie pourrait s'écrire comme celle des tentatives de s'emparer d'objets qui jusque-là appartenaient à d'autres disciplines afin de souligner la dimension proprement sociale d'un phénomène. Un phénomène auparavant pensé en termes économiques, par exemple ainsi, du marché, comme l'a magnifiquement montré très récemment Michel Calon, ou encore psychologique, ainsi évidemment du suicide, comme l'avait magistralement démontré Émile Durkheim il y a fort longtemps. C'est dans ce type de démarche que s'inscrit Bernard Lahire lorsqu'il annexe dans son nouveau livre un objet qu'on peut qualifier de limite pour les sciences sociales, le rêve, signalant le défi dès son titre, en écho à celui, référence écrasante du texte fameux du fondateur de la psychanalyse. Ce livre de Bernard Lahire donc est titré « L'interprétation sociologique des rêves » et il est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Et pour dialoguer avec Bernard Lahire dans la seconde partie de l'émission, j'ai immédiatement pensé à Marie Darrieussecq qui nous rejoindra. Marie Darrieussecq est écrivaine, on lui doit de très nombreux romans et dans certains d'entre eux, les rêves jouent un rôle important. C'est évidemment pour cela que j'ai pensé à elle, mais aussi parce qu'elle a une pratique de la psychanalyse, et donc un intérêt pour les rêves. Donc il me tardait d'avoir sa lecture du livre de Bernard Lahire et de pouvoir comparer ce que fait aussi une écrivaine avec les rêves et ce qu'a pu faire de façon nouvelle, au fond, Bernard Lahire, un sociologue avec les rêves. Comment est venue cette idée risquée? Vous dites au début du livre, au fond... C'est une ancienne idée. Vous avez mis 20 ans pour écrire ce gros livre qui n'est que le premier volume d'une entreprise qui en comptera au moins un deuxième.
Oui. Bah, c'est une idée, les idées scientifiques, ou les réalisations plutôt scientifiques, c'est toujours des mélanges d'occasions et de cultures, de types de problèmes qu'on a travaillé avant, etc. Moi, l'origine, c'était en 97. Je travaille un livre qui s'appelait « L'homme pluriel », qui est paru en 98, et travaillant à Berkeley, je découvre un début de sociologie des rêves aux États-Unis par des collègues.
Déjà, l'homme pluriel, on peut dire, c'est un travail qui vise à enrichir, au fond, une partie de la théorie de Pierre Bourdieu, et en particulier le concept d'habitus. Donc, c'est un travail qui se focalise sur les individus et qui vise à montrer qu'il n'y a pas un habitus, ou plutôt qu'il est clivé, qu'il est complexe. Et voilà, ça, c'est le cadre à l'époque. Donc, vous travaillez sur l'individu déjà à l'époque.
C'est déjà pas un hasard. C'est-à-dire, je travaille avec même des... j'essaye de nommer ce que je fais en utilisant des termes d'Urquhart ou d'Alvax, de gens comme ça. Il parlait de sociologie psychologique, il parlait de sociopsychologie. Alvax a eu une chaire de psychologie collective. Enfin, on voit bien qu'ils étaient très en dialogue avec la psychologie à l'époque. Et que même si Durkheim va un peu écarter l'individu parce que c'était un peu gênant pour lui, et que la sociologie...
Puis il s'agissait de fonder la sociologie.
Voilà, c'est l'étude des collectifs et on laisse aux psychologues le reste... Très rapidement, il va revenir sur cette opposition un peu radicale. Et à l'époque, effectivement, je travaillais alors avec une tradition qui est plus complexe encore que celle de Durkheim. C'est Bourdieu, ayant lu Durkheim et ayant lu Weber, etc., qui propose une théorie de l'habitus qui suppose donc un social incorporé et qui parle de passé incorporé. Ça n'est pas un hasard s'il y a des liens immédiatement qui peuvent se faire avec la psychanalyse ou avec la psychologie. On est constitué de toutes les expériences qu'on a engrangées, entre guillemets, et de manière plus ou moins organisée dans notre vie sociale. Donc à l'époque, bah oui, je découvre, c'est une pure occasion, des textes, par exemple, de Gary Allen Fine, qui est un collègue de Northwestern, et qui avait commencé à travailler sur les rêves, mais d'une manière un peu particulière. C'est-à-dire, on voyait bien que c'était gênant pour un sociologue, donc il commençait à travailler les rêves à partir du moment où le rêve est partagé. Donc les questions qui se posaient, c'est à qui j'en parle, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'interprète socialement différemment. En plus, c'est un interactionniste, donc il se posait la question de...
Des usages sociaux des rêves.
Voilà, exactement, la circulation, des usages sociaux des rêves, de leurs interprétations diverses, et voilà. Ceci dit, il avait publié quand même un numéro de revue où... une des chercheuses avait commencé à travailler sur les représentations que se faisaient des frères ou sœurs d'enfants handicapés. Elle avait relevé des rêveries éveillées, ce que Anselm Strauss aussi, un autre interactionniste, avait commencé à faire, et des rêves. Et on avait déjà là autre chose, c'est-à-dire qu'on commençait à rentrer dans les rêves pour comprendre le lien entre la vie des gens et ce dont ils rêvent. L'avantage avec les États-Unis, c'est qu'ils ont un surmoi très faible du point de vue du rapport à la psychanalyse, donc ils y allaient vraiment les pieds dans le plat, ils s'en fichent un peu. Ça c'est toujours comme ça aux États-Unis, on trouve des choses. Nous, on a tellement peur. Donc moi, j'ai eu très peur. Voilà. Grosso modo, depuis 98, je lutte pour essayer de faire quelque chose. Donc j'ai lu. Et une des choses qu'il fallait faire, c'était lire Freud, lire ses prédécesseurs, lire ceux qui lui ont succédé, et puis dans des disciplines très très différentes, pour essayer de se réapproprier un petit peu toute cette histoire des interprétations des rêves. Voilà.
Parce qu'il faut dire que les relations entre la sociologie et la psychanalyse sont des relations souvent d'évitement, de méconnaissance réciproque, ou en tous les cas... Lorsqu'il y a des expériences analytiques individuelles, elles interfèrent assez peu avec le travail académique, ce qu'on peut noter. Alors, il y a évidemment, vous parliez de Bourdieu, mais il y a un autre auteur qui vous est cher, sur lequel vous avez beaucoup travaillé aussi, qui est Norbert Elias, et pour lequel ce lien s'est constitué historiquement, je dirais, dans sa trajectoire.
Ben oui, et puis il y a quelques années de ça, on a publié un inédit de Norbert Elias, c'était le dernier texte qu'il avait écrit et qui portait sur Freud. Parce que on avait beaucoup commenté Elias par rapport à Weber notamment, mais on avait oublié que sa référence centrale, c'était Freud. Son procès de civilisation, cette pacification des mœurs, etc., qui reposait sur de l'autocontrôle de plus en plus fort. En fait, il reprenait Freud et il historicisait tout. Voilà. Donc, il prenait l'inconscient et il l'historicisait. Il prenait le moi, le surmoi. Il travaillait tout ça en tant que sociologue. Et pendant longtemps, il ne l'a pas dit. À la fin de sa vie, il a fait ce texte qui montrait qu'il voulait, d'abord que pour lui, c'était le modèle central d'étude de la personnalité, et que c'était avec ça qu'il fallait se confronter, je pense qu'il avait raison, et il a commencé à peine à le faire, voilà ce qu'on peut dire. Donc c'est toutes ces choses-là qui m'ont permis d'avancer petit à petit et de m'autoriser à faire des choses, sinon c'est trop écrasant, c'est trop accablant.
Alors ces choses, vous commencez à les livrer, vous avez décidé de le faire en deux temps.
Oui.
Ce livre, L'interprétation sociologique des rêves, est le premier volume dans lequel vous proposez une approche sociologique des rêves, un cadre au fond, théorique, mais qui n'est pas que théorique, parce que ces deux temps, vous refusez qu'on puisse les qualifier de théorie d'un côté, enquête de l'autre. Vous avez commencé à mener une enquête qui vous a permis d'écrire ce livre qui existe aujourd'hui.
Oui. Et puis là, c'est un vrai gros problème dans les sciences sociales aujourd'hui. On est tous là à se dire il faut absolument des données de première main, etc. Bon, quand il y a 150 ans de travaux au minimum sur les rêves, avec des gens qui ont publié des rêves partout, qui expliquent comment ils l'ont fait, qui ont fait des études biographiques sur les gens, etc. Enfin bon, bref. On a des données empiriques massives. Ce qui manque, c'est pas les données empiriques.
Il faut penser cumulatif à un moment.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on pense pas assez cumulatif, et du coup, on ne cherche pas à faire ce qu'a fait Freud très précisément. C'est-à-dire qu'il a fait une belle synthèse formidable de plein de choses que j'ai lues par ailleurs pour voir comment il avait constitué son modèle. On voit qu'on retrouve tous les éléments chez des auteurs du 19e siècle, beaucoup de Français, des Belges, certains Allemands, mais quand même beaucoup de Français, qui ont travaillé le rêve avant lui, etc. Et il fait la synthèse de ça. Mais c'était sur des données. On avait déjà des résultats. Et il fait ce travail-là qui est assez extraordinaire, parce que je prends la métaphore de quelqu'un qui trouverait un grand sac avec des jouets un peu mélangés, et puis il y aurait des Legos, et alors il commence par trier le bon grain de livret, les choses qui sont pas des Legos, il les enlève, et puis il trouve des Legos, il commence à les nettoyer, parce que quand même c'est un peu sale tout ça, et puis il arrive à monter un truc, et il a pas de plan, donc il sait pas... Enfin, il a un plan parce qu'il étudie des hystériques, comme ça qu'on les appelait à l'époque. On ne les appelle plus comme ça, mais il était en plein travail sur des cas avec des gens qui lui apportaient ses rêves, leurs rêves. Et quand il a fait cette synthèse-là, il a mis en forme et il a construit le bateau de pirate ou le vaisseau spatial dont il n'avait pas le plan. Et c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on fait un travail de synthèse, on s'appuie sur des données qui sont théorico-empiriques, de gens qui ont déjà avancé sur des petits points. Et à un moment donné, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver le lien entre ces différents points.
Et c'est cette méthode que vous avez reprise?
C'est ce que j'ai essayé de faire en lisant ce qui s'est fait après Freud.
Donc vous avez regardé ce qui s'était fait avant? Voilà. Pour voir comment Freud avait fait, oui. Ce que évidemment Freud a apporté, qui est une synthèse, mais enfin, oui. Plus qu'une synthèse, oui. Aussi, parce qu'il y a des choses originales. Dans...
Oui, mais la question de l'originalité, c'est la synthèse. En fait, pour moi, l'originalité, c'est une synthèse. Synthèse, ça ne veut pas dire on compile. C'est pas du tout ça. C'est vraiment trouver le moyen, vraiment.
Les articulations.
C'est pour ça que je dis, il a pas le plan. Il sait pas comment monter son jouet, là. Et donc, son modèle, c'est là son originalité. Il arrive à lier des choses, à lier des traditions, à lier des bouts de savoir tout à fait positif sur certains points. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire en tenant compte de travaux qu'évidemment on ne pouvait pas connaître Freud. Alors il y a eu quand même des critiques de Freud qui sont intéressantes de voir à l'époque. De gens qui d'ailleurs étaient très proches de lui, mais lui disaient « mais là, vous devriez regarder ci, ça, parce que quand même, je ne suis pas complètement convaincu ». Et je pense qu'ils n'avaient pas tort. Mais après, il y a eu beaucoup de travaux en linguistique, en psychologie cognitive, en neurosciences, aussi en anthropologie, histoire, sociologie, parce qu'il y a quand même des gens qui ont essayé de travailler sur les rêves. Et c'est ça qu'il faut arriver à regrouper pour produire un modèle. Et après, alors c'est pas après, c'est que pendant ce temps-là, une fois que j'avais déjà le début du modèle, j'ai commencé à faire des entretiens et demander à des gens de bien vouloir noter leurs rêves, ce qui n'est pas si simple que ça.
Et ça fera l'objet d'un second volume. Voilà. Alors le premier volume, c'est le plan du bateau de pirate, le vôtre, pas celui de Freud.
Ah, oui.
Alors à quoi il ressemble ce modèle?
Il ressemble à, au fond, le modèle freudien me semble tenir la route sur plein de points. Simplement que son inconscient n'est pas tout à fait l'inconscient ni des sociologues, ni des neurosciences. La question de est-ce que n'est inconscient que ce qui est refoulé pose un gros problème. Et pour, clairement aujourd'hui, pour les gens qui travaillent sur l'inconscient cognitif, c'est pas du refoulé, c'est des choses dont on ne peut pas se rappeler. Alors, par exemple, tous les progrès qui ont été faits. Et alors là, autant par la sociologie ou l'anthropologie de l'enfance que par les neurosciences ou les sciences cognitives. Un des progrès, c'est d'avoir montré que, d'abord, on apprend des choses à une étape de notre vie où on se constitue et on peut pas savoir ce qui nous constitue. Je suis nourrisson, je rentre dans des interactions, on me fait des choses... On construit quelque chose dans ma chair, dans mes perceptions, dans mes réactions, etc. Mais je ne peux pas le maîtriser. Je peux le maîtriser peut-être beaucoup plus tard quand je prends acte du fait qu'il y a des choses qui sont plus fortes que moi, qui me font agir d'une certaine façon. Et généralement, on revient là-dessus quand ça fait souffrir. Sinon, on revient pas sur des choses qui ont été constituées, si tout va bien. Donc il y a déjà toute une discussion sur l'inconscient, sur la nature de cet inconscient. Est-ce que c'est lié à du refoulement ou pas, etc. Les sciences sociales ont tendance à dire, qu'on prenne Bourdieu, qu'on prenne Durkheim, qu'on prenne Mauss, etc., qu'il y a de l'inconscient incorporé qui n'est pas lié forcément à du refoulement. Je dis pas qu'il n'y a pas du refoulement, mais tout n'est pas nécessairement lié à du refoulement. Ça, déjà, c'est un point de discussion. Un autre point, c'est la question de la censure. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important, parce que je pense, et c'est pour ça que c'était important d'aller voir les prédécesseurs de Freud, je pense que Freud a émis une hypothèse qui n'est pas bonne, à mon avis, je vais le dire comme ça, de manière un peu directe, mais qui lui a fait faire des choses extraordinaires qu'il n'aurait pas fait s'il n'avait pas eu cette hypothèse. C'est souvent le cas en science. C'est-à-dire que il a pris la bonne voie, il avait l'idée que tout dans le rêve était bizarre, étrange, etc., à cause du contournement de la censure. Donc il en a fait quelque chose, il dit d'ailleurs que c'est un pilier de son modèle, Et effectivement, c'est ce qu'il a structuré dans ses recherches. Donc du coup, il a cherché qu'est-ce que c'est que ce langage, pourquoi ça condense, pourquoi il y a une substitution visiblement d'un objet ou d'une personne ou d'une situation par rapport à une autre, etc., etc. Donc ça l'a vraiment mis sur les bonnes voies. Et tout le reste est vérifié depuis, c'est-à-dire les phénomènes de condensation, la métaphore ou la littéralisation de la métaphore, comme on dit, le rôle de l'analogie qui est central dans tout le rêve et dans notre pensée en général, hein, même à l'état éveillé, on est en permanence en train de faire des analogies. Tout ça, Freud l'a découvert ou mis en avant dans son travail. Donc voilà, il y a une discussion autour de ces questions-là. Je pense que, et moi je mobilise aussi les sciences sociales pour montrer que la censure, tant formelle que morale, en fait, diminue d'autant plus qu'on va vers des situations informelles, privées, intimes, etc. Or, le rêve, c'est le plus intime de l'intime. On ne peut pas trouver de plus intime que le rêve, puisque c'est une sorte de communication de soi à soi. Beaucoup de littéraires, d'ailleurs, ont essayé de penser cette question. Qu'est-ce que c'est qu'un flux de conscience? Qu'est-ce que c'est que cette communication non-verbale, imagée? Parce que ça aussi, les sciences cognitives nous ont appris que on pense par image. On pense par image, mais avec la narration, ce qui suppose d'avoir du langage. Mais c'est pas la même chose que de penser avec des mots ou penser. Bon, donc tout ça, on arrive à découvrir ces choses-là, et on voit, finalement, toutes les bizarreries du rêve sont liées au fait que je me parle à moi-même pendant le rêve. Ça parle en moi-même, on va dire ça comme ça, indépendamment de ma conscience, pendant le rêve. Il y a des associations qui se font en permanence. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait parler les gens de choses qu'ils trouvent bizarres eux-mêmes, ils disent « j'ai rêvé de ça, je ne comprends pas, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est une folie ». Bon. Ils tombent sur leurs rêves, on leur pose simplement des questions. Alors, c'est pas la méthode psychanalytique, pour le coup. Mais on leur fait faire des associations quand même. On leur demande d'expliciter c'est qui cette personne. Vous pouvez me raconter les histoires que vous avez eues avec elle. C'était où, quand, etc. Et au bout d'un moment, en fait, c'est eux-mêmes qui se rendent compte qu'il y a des analogies entre plein de choses et que c'était indépendant de leur volonté. Ils l'auraient pas dit comme ça. Consciemment dans la vie sociale, mais qu'ils le font dans leurs rêves. Donc, c'est un trésor, en fait, d'associations cachées. Or, ces associations cachées, elles continuent à travailler pendant la vie éveillée. Et c'est ça qui est formidable. C'est que, au fond, les sociologues travaillent sur un niveau qui est un petit flux de conscience. C'est vraiment un tout petit filet. Alors que l'essentiel, c'est ce que quand même Bourdieu appelait du sens pratique. Derrière ce terme un peu comme ça, générique, il voulait parler, d'ailleurs il parlait aussi d'analogie, de démon de l'analogie, en citant implicitement Mallarmé. Cette analogie qui nous travaille en permanence, qui fait que dès que deux choses se ressemblent, eh bien on se comporte avec la deuxième comme on a appris à se comporter avec la première. Et que ça, tout ça nous conduit dans la vie. Plutôt que nous sommes les maîtres conscients de notre vie, de notre destin, etc. Voilà.
Alors on comprend bien que le premier enjeu, c'est de constituer ce qui est le plus intime du plus intime, pour reprendre votre expression. Bernard Lahir, on a un objet sociologique, ce qui ne va pas de soi, parce que spontanément on pourrait se dire, mais en quoi est-ce social, cette situation qui n'est pas consciente, qui ne concerne qu'un individu, mais même pas conscient de lui-même au moment où elle se passe, donc en quoi est-ce social? Et puis, il y a un deuxième enjeu qui est, au fond, une fois qu'on a découvert ce que vous venez de décrire, l'articulation entre ce qui se passe dans ses rêves et la vie sociale telle qu'elle est habituellement étudiée par la sociologie, alors on ne peut plus faire de la sociologie de la même façon qu'avant.
Alors moi je pense que oui, effectivement, on ne peut pas faire de la sociologie tout à fait comme avant quand on tient compte de ça. Parce que on présuppose beaucoup de choses on présuppose, même quand on n'a pas un modèle d'acteur rationnel, type Homo economicus, etc., ce qui quand même caractérise la grande majorité des sociologues, anthropologues, on passe au genre de vision aussi simpliste, je dirais. Bon, certains disent qu'on peut se passer d'un modèle de l'acteur, très bien, mais moi je pense que non, on est obligé d'avoir un acteur, des acteurs avec leur épaisseur historique, les penser dans leur histoire et les penser dans l'histoire des groupes auxquels ils ont participé. Alors c'est là où on retrouve le social. Le social, c'est que en fait, ils ont des expériences familiales. Freud s'est arrêté aux expériences familiales parce que c'était là que commençait. Et il a eu raison. La sociologie vérifie que la famille, c'est la première matrice, la plus forte, la plus durable, qui nous constitue et qui nous détermine toute notre vie. Dans tous les goûts, on peut prendre préférence alimentaire, décoration intérieure, tout ce qu'on veut. On vérifie ça, même grossièrement. Donc ça dit quelque chose. Et Freud avait raison de se concentrer là-dessus. Le problème, c'est que ça continue après. Il y a l'école. Et il y a le travail, et il y a l'église, quand il y avait encore des églises. Enfin, il y en a, mais il y en a moins dans la vie des rêveurs que j'interroge aujourd'hui. Des partis politiques, bref, tous les cadres sociaux interviennent. Et même les sociologues ou les psychologues qui ont fait des analyses statistiques sur des grandes bases de données. Par exemple, il y a une base de données aux États-Unis qui s'appelle Dream Bank. Qui a été construite par deux psychologues. Et ils prennent, alors c'est du récit manifeste, puisqu'ils n'ont que la surface des rêves. 22 000 rêves, c'est énorme. Et là, ils commencent à trier en bons positivistes, hein, on peut leur reprocher d'être un peu naïfs, mais quand même, ils prennent les hommes et les femmes, les gens qui ont telle propriété par rapport à telle autre, etc. Et on voit qu'il y a quand même des régularités. Les gens rêvent pas des mêmes espaces selon qu'ils sont hommes ou femmes. Les femmes rêvent plus qu'elles sont agressées que les hommes. Elles rêvent plus, enfin les hommes rêvent des plus d'hommes que de femmes. Bon, alors peut-être que pour la partie rêve érotique, on voit remonter ça, mais globalement, les femmes rêvent autant d'hommes que de femmes, et les hommes plus d'hommes. Bon, alors tout ça, il faut l'interpréter, mais c'est intéressant, c'est de voir que il n'y a pas d'aléatoire dans ces choses-là. Alors, moi, je m'intéresse pas à cette échelle-là au rêve, parce que je pense que ce serait louper les choses, et que notamment quand on en reste au récit manifeste, on ne saura jamais si les objets dont on rêve, les lieux dont on rêve, les personnes dont on rêve sont vraiment les bonnes personnes, en fait. Je donne un exemple, il y a des collègues aux États-Unis qui ont travaillé sur un pédophile. Bon, qui était en institution psychiatrique, etc. Son père l'avait forcé, quand il était petit, à lui faire des fellations. Voilà. C'est ça, son histoire. Ça a déréglé tout son rapport à la sexualité, il avait une curiosité dite malsaine, etc. Et il a été pédophile. Il a accepté de donner des milliers de rêves au cours de sa vie. Et en fait, on ne voit pas apparaître le père dedans, du tout. Donc, quand les collègues font, par exemple, l'hypothèse que plus un personnage revient, plus il est important dans la vie, c'est pas si simple que ça. Par contre, quand ils acceptent de rentrer un peu dans le rêve et de s'interroger sur la relation entre ce qui est manifeste et ce qui est dessous, dans leur vie de rêveur, eh ben, on s'aperçoit que, par exemple, le père intervient sous la forme d'animaux agressifs. Bon, c'est un ours, c'est un taureau qui le charge, etc., etc. Donc, ça demande beaucoup plus de subtilité que des analyses un peu brutales, statistiques, comme ça, sur des rêves manifestes.
Votre livre, vous le terminez non pas par une, mais par deux conclusions, Bernard Lahire. Une qui se pose la question qui règle plutôt la question du fonctionnalisme, la question de... Oui. À quoi ça sert les rêves ? Ouais. Question à laquelle on a tendance à réduire l'objet rêve, très souvent. Et l'autre qui pose la question sempiternelle aussi depuis les début des sciences sociales, du déterminisme, de ces terribles sciences sociales qui nous montreraient que nous ne sommes pas libres, au fond. Ouais.
Sur le premier, c'est assez drôle parce que quand on lit ce que j'ai fait, beaucoup de gens qui travaille sur les rêves, on voit qu'il y a de la concurrence en termes de d'écrire des fonctions ou proposer des fonctions aux rêves. Mais du coup, ça devient ridicule. C'est-à-dire il y a au moins 25 propositions aujourd'hui qui tournent sur le rêve, ça sert à ci, ça sert à ça, etc. Ça peut servir à recomposer un certain nombre de choses la nuit, à travailler sa mémoire. Enfin, chacun avec son petit goût et son petit intérêt arrive avec cette question.
C'est tellement ridicule que vous mettez cette phrase de Pierre Dac en exergue du chapitre, de cette conclusion. Les rêves ont été créés pour qu'on ne s'ennuie pas pendant le sommeil.
Voilà, j'ai trouvé ça très drôle et ça, je trouvais que mes collègues devraient lire Pierre Dac, en fait. Et c'est vrai que ça n'a pas de sens de se poser la question de la fonction. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'on continue à penser la nuit, ce qui n'était pas acquis dans la tête des savants pendant très longtemps. On a pensé que ça pouvait peut-être s'arrêter pendant la nuit, comme d'autres fonctions se ralentissent, ou etc. Non, ça continue. On a même du sommeil paradoxal, on est encore plus actif du point de vue neuronal pendant cette période-là. Donc, non, ça continue. Et on continue, en fait, à travailler. La pensée continue. C'est tant qu'on vit, on pense. On rêve, alors on se représente des choses à l'état éveillé ou ensommeillé, voilà, et on a des images qui ne s'arrêtent pas. Donc forcément, quand on voit les différents rêves qu'on peut recueillir, on s'aperçoit que ça répond à des tonnes de fonctions. Donc c'est pas une fonction, c'est plein de fonctions. C'est comme si on disait, quelle fonction a le langage ? Ça n'a pas de sens. Le langage a des fonctions extrêmement multiples. Et puis sur la liberté, bon, là, c'est assez drôle. Parce que il y a effectivement, de manière récurrente, cette idée que les sociologues nous désespèrent parce qu'ils nous parlent de ces déterminismes, etc. Mais oui, alors, en prenant un objet comme celui-là, qui est très intime, qui est très personnel, etc., on pourrait se dire où sont les déterminismes. Et on les retrouve. On arrive à les retrouver, simplement que c'est très fin, c'est de la dentelle, et il faut pas arriver avec des gros sabots devant un morceau de dentelle. Voilà. Bon.
Le syndicat du rêve, c'est le nom, The Dream Syndicate, d'un groupe qui est apparu sur la scène californienne au début des années 80. Qui avait disparu pendant 30 ans et qui vient de publier un nouvel album ces derniers mois. How Did I Find Myself Here? On écoute Dream Syndicate.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
L'interprétation sociologique des rêves, c'est le titre du livre de Bernard Lahire dont nous parlons aujourd'hui à la suite dans les idées. Bernard Lahire est sociologue, professeur à l'École normale supérieure de Lyon. Il fait paraître ce livre aux éditions La Découverte. Et pour en parler dans la deuxième partie de l'émission, j'ai demandé à Marie Dariussec de lire ce livre et de venir dialoguer avec Bernard Lahire, tout simplement parce que Marie Dariussec, pour ceux qui ont lu certains de ses romans, comprendront tout de suite le lien avec le rêve. Ça avait été le cas des Brefs Séjours chez les Vivants, qui est le deuxième.
C'était le quatrième.
Le quatrième, pardon.
C'était en 2001. Mais,
oui, ça remonte déjà à il y a longtemps. Et puis, il y a d'autres livres dans lesquels le rêve est peut-être plus que. J'imagine qu'en fait, les rêves sont dans tous vos livres.
Je crois, oui.
Mais de façon peut-être plus présente. Et par ailleurs, depuis quelques années maintenant, vous êtes également psychanalyste et donc amené, du fait de cette méthode.
À entendre des rêves.
À faire raconter vos rêves. Exactement comme Bernard Lahire fait raconter des rêves, mais pas avec le même mode de connaissance, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous avez retiré en quelque de cette contribution nouvelle de Lahire à...
Beaucoup de choses. J'ai été passionnée par ce livre et j'attends la suite, puisque donc j'ai compris qu'il y aurait un deuxième volume. D'abord, c'est le dialogue avec Freud qui m'a paru passionnant et très réconfortant d'une certaine façon, parce que bon, moi, la psychanalyse m'a sauvé la vie, pour le dire rapidement, donc je dois à Freud. Mais cette idée, ces affirmations de Freud comme quoi le rêve est forcément la réalisation d'un désir, ou bien que le rêve est le gardien du sommeil, on a tous fait l'expérience que c'est pas si simple, au minimum. Et j'aime beaucoup la façon dont Bernard Lahire discute ça. Tout en, effectivement, c'est ce que vous disiez, reconnaissant que ces hypothèses ont lancé Freud sur des pistes absolument passionnantes et qui sont encore pertinentes en partie aujourd'hui. Moi, ce qui m'a énormément plu, et c'est peut-être aussi parce que je suis écrivaine, c'est ce que vous dites, que le rêve, au fond, est un dialogue avec soi-même, hein, est une communication de soi à soi. Ce qui est une hypothèse formidable parce qu'elle suffit à expliquer la structure même du récit du rêve. C'est-à-dire que quand on se parle à soi-même, on n'a pas à expliquer toutes les choses qu'on aurait à expliquer, soit à un inconnu, c'est-à-dire beaucoup de choses, soit même à un proche. Et que la façon dont on se parle à soi-même peut se passer de beaucoup de mots et peut passer par des images peut-être fugaces, mais qui nous rapportent à une épaisseur de passé et à des choses que nous connaissons très bien en nous. D'où pour moi, enfin, j'ai trouvé ça lumineux. C'est-à-dire, au fond, c'était une explication que j'attendais depuis longtemps. Le rêve... C'est un peu décourageant parfois, le rêve, cette apparence de rébus, hein, du rêve. Mais une fois qu'on se dit « je me parle à moi-même », tout s'éclaire. Je n'ai pas à m'expliquer la couleur de ce pull au vert, puisque c'était celui que m'avait tricoté ma grand-mère quand j'avais 5 ans. Donc ça m'a vraiment emballée, je dirais, dans le livre. Et après, bon, j'attends aussi le deuxième volume. La toute petite frustration que j'ai eue sur ce premier volume, c'est que les premiers récits de rêve viennent assez tard. Mmh. Parce que comme vous, d'abord, vous avez besoin, et c'est tellement légitime, d'établir votre méthodologie, d'expliquer d'où vous partez, où vous allez. Voilà, les premiers récits viennent, disons, vers la moitié du livre. Alors j'attends impatiemment le second volume. D'autant que, j'aime beaucoup la phrase d'Henry James qui dit « Tell a dream, lose a reader », hein, « Racontez un rêve et perdez un lecteur ». Parce que c'est vrai que, enfin, il me semble que les rêves des autres sont assez ennuyeux. Sauf en analyse. Quand on est analyste et qu'on entend un rêve, c'est comme un cadeau qu'apporte le patient. Parce qu'en général, il va se produire quelque chose dans l'analyse avec un récit de rêve. Mais les rêves des copains, franchement, c'est souvent assez ennuyeux parce que ça parle tellement de soi à soi. Mm-hmm. Qu'on cherche sa place comme auditeur. Hein. Ça peut être assez vite ennuyeux, disons. Et raconter un rêve dans un roman, c'est très difficile, en fait. La légitimité du rêve dans le roman... alors, il y a des cas formidables dans Anna Karénine, par exemple. Il y a un rêve commun entre Anna et son amant. Ils font le même rêve. Et ça a un effet narratif extraordinaire. Mais c'est Tolstoï, quoi. N'est pas Tolstoï qui veut. Quand vous lisez La boutique obscure de Georges Perec, j'adore Perec... Mais c'est en fait, c'est son livre le plus ennuyeux. Mm-hmm. Parce qu'il ne parle qu'à lui-même, en fait.
Ah oui, non, mais il y aura un vrai problème d'écriture. Sur les histoires de rêveurs et de rêveuses. Parce que d'abord, il y a un vrai problème d'anonymisation. Parce que là, on touche à de l'intime, même pas dit... moi, ça fait très longtemps, en tant que sociologue, que je me rends compte que les gens sont capables de nous lire des choses qu'ils n'ont jamais dit, mais à leur mari, à leur fils, à leur fille, qui diront jamais à d'autres qu'il y a des étrangers qui sont là et qui sont bienveillants, qui perçoivent comme bienveillants. S'ils ne les perçoivent pas comme bienveillants, là, c'est autre chose. Mais quand on fait bien son travail, on voit bien que il y a un côté cadeau, effectivement. Ils nous offrent des choses et on est très content d'entendre ces choses qu'ils ne disent à personne. Donc c'est un vrai problème d'arriver à écrire, d'autant que j'ai des rêveurs ou des rêveuses. J'en suis à, pour certains, une trentaine d'heures d'entretien avec eux. Et j'ai des rêveurs qui m'ont donné 200 rêves, par exemple. Donc je serai obligé de moduler le type d'écriture en fonction de la longueur de la série de rêves. Mais l'intérêt, moi, ce que je voulais, c'était avoir une longue série de rêves, parce qu'on voit la répétition. Et l'idée, par exemple, de rêves récurrents, moi, me gêne un peu parce que c'est souvent des rêves, oui, effectivement, qui formellement se ressemblent. Mais en fait, ils se ressemblent même quand ils se ressemblent pas. Il y a des ressemblances même quand manifestement, il y a rien.
C'est pas la même histoire.
Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans une période donnée, alors je ne pourrais pas le faire sur 20 ans, mais il y a des cas de gens qui ont étudié sur 20 ans, il y a des récurrences étonnantes. Et là, ça fait réfléchir quand même, hein, sur ceux qui structurent les individus et qui les travaillent en permanence. Moi, je pense que la sociologie des rêves, c'est une sociologie de la préoccupation ou des soucis. Le problème, c'est que c'est Heidegger qui a ces termes et que pour un sociologue, c'est très, très embêtant.
Il faut les reprendre à son compte.
Et voilà, il faut se les approprier. Mmh. Et je pense que la sociologie ne s'est pas assez intéressée. Elle a sociologisé la notion de souffrance. On a, avec Bourdieu, la misère du monde, etc., une réflexion sur la souffrance. Et puis, pas les seuls. Hein.
Christophe Dejour.
Voilà. Mais alors, préoccupation, souci. C'est ça qui travaille les rêves en permanence.
Il n'y a pas de rêve heureux, comme vous dites à un moment.
Oui, il y a quelque chose comme ça.
C'est une belle formule, oui.
Marie Dariussec, vous disiez, c'est très difficile de se servir d'un rêve pour écrire. Cette fois, c'est à l'écrivaine que je pose la question. Du coup, quel rapport vous avez avec ce matériau, que ce soit le vôtre, ceux des rêves que vous entendez? Est-ce que malgré tout, il y a un rapport entre l'imaginaire de fiction que vous construisez pour vos livres et puis ces histoires qui ne sont pas des histoires visuelles qu'il est très difficile de transposer dans des mots, dans une structure langagière classique?
Alors ce qui me frappe, dans les rêves, en particulier dans mes rêves, et que Bernard Lahire met très bien en forme, c'est qu'il y a très peu, au fond, de phrases complètes, hein, dans les rêves. On est vraiment dans le visuel. Et comme écrivaine, c'est un peu troublant. C'est-à-dire, moi, je travaille comme les mots toute la journée, et dans mes rêves, il y a peu de phrases. Par contre, il y a certaines phrases, et ça m'arrive qu'elles me réveillent. Et là, je m'en souviens. Pour le dire platement, jamais aucun rêve ne m'a donné une idée de roman, par exemple. Les rêves ne sont pas une source d'inspiration. En revanche, et ça c'est une chose que vous abordez, Bernard Lahire, de temps en temps dans ce volume, que j'espère que vous aborderez davantage dans le deuxième, c'est la rêverie éveillée. Mm-hmm. Parce que tous mes romans partent d'une rêverie éveillée, tous. C'est-à-dire que je passe mes journées à rêver éveillée. Je trouve qu'on ne parle jamais assez de ça, d'autant qu'on est dans une époque où la rêverie éveillée, ou la fantaisie diurne, disons, comme disait Freud, est menacée, hein, parce que les gens n'attendent plus le bus, les gens sont sur leur téléphone portable. Je me rappelle d'un temps où on s'ennuyait beaucoup plus. Et quand on s'ennuie, on fait des fantaisies.
Le régime de l'attention a changé.
Et ça, alors, je ne suis pas du tout passéiste. Hein. Je dis juste qu'on est dans une période où la fantaisie diurne a peut-être moins de place, où elle s'exprime différemment. Toujours est-il que moi, comme écrivaine, je l'exerce de façon consciente. C'est-à-dire, cet après-midi, je sais que je vais ne rien faire. C'est-à-dire que je vais écrire. Je vais me promener, probablement. Et je vais rêver à ce que j'ai à écrire, ce qui est dans ma tête. Et c'est très curieux comme état. Hein. C'est-à-dire que, un peu comme dans le rêve endormi, je suis capable d'intégrer des incidents autour de moi, mais je suis dans... En fait, c'est ça qui est très paradoxal dans le rêve. Dans le rêve, on est très concentré. Mm-hmm. Et on pense... Je vous sais gré, Bernard Lahire, d'avoir su dire que le rêve n'est pas... On n'est pas inconscient, on est très conscient dans le rêve, on est très à son rêve, on est très occupé par son rêve.
On n'est qu'à ça.
On n'est qu'à ça, exactement. Et il y a des moments de la rêverie diurne où on est presque dans un état de transe comparable, mais pas tout à fait.
Et alors, il y a des gens qui ont travaillé sur la rêverie éveillée et qui montrent que la frontière est très très floue, en fait, et qu'il y a certains rêveurs éveillés qui arrivent à même avoir peur de ce qu'ils sont en train de rêver. Après, alors qu'ils sont éveillés. Ça peut nous paraître bizarre, mais il y a certaines...
Et puis il y a le délire après, le délire, l'hallucination.
Absolument. Voilà. Mais moi je pense que c'est important d'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de faire, de remettre le rêve dans un continuum expressif. C'est-à-dire c'est pas un domaine complètement bizarre, une île...
Oui, ça, vous l'avez pas dit encore vraiment. Oui, oui. Vous insistez beaucoup sur cette dimension d'expression du rêve.
Voilà. C'est une expression, une forme d'expression particulière, et dans des conditions qui sont celles de quelqu'un qui dort. Et en fait, ça varie. Alors, les spécialistes ont fait les différences entre les images qu'on a en s'endormant, les images qu'on a en se réveillant, les images qu'on a pendant qu'on dort.
Certaines phases du sommeil.
Voilà, hypnagogique, hypnopompie, etc. Et puis après, on continue. Il y a les rêveries éveillées, il y a les délires, on a tous été enfants avec des fièvres à 40 ou 41, on sait ce que c'est, on parle, ça va dans tous les sens. Quand on boit beaucoup, quand on prend des drogues, il faut être quand même un peu obtus pour s'imaginer que les acteurs soient rationnels et toujours conscients, maître de leur destin et de leurs pensées, etc. C'est tout ça qu'il faut étudier. Et dans une continuité, c'est un continuum expressif, en fait.
Il y a un aspect aussi du rêve qui m'intéresse, et encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'il n'y a pas une fonction du rêve. C'est presque absurde de chercher ça. Mais il me semble aussi que le rêve nous sert enregistrer ou à prendre conscience, paradoxalement, d'un élément nouveau. Typiquement, j'ai eu 3 enfants, il m'a fallu à peu près, ça fait très mauvaise mère, hein, mais plusieurs mois pour que ces enfants entrent dans mes rêves, pour que je sache dans mon inconscient que j'avais des enfants. Et en général, c'était des rêves de catastrophe, où je les perdais, ou ça c'est très banal hein, chez les jeunes mères. C'est une façon de savoir qu'on a un enfant. Mais il y a aussi cette chose que j'ai entendue sur le divan, ou bien dans ma vie quotidienne avec mes enfants. Moi, je ne rêve toujours pas de technologie. Je n'ai toujours pas intégré de téléphone portable dans mes rêves, même quand je suis en danger et qu'il serait si simple d'appeler avec un téléphone. Alors que mes enfants, à qui je pose la question, rêvent sans cesse de cet objet avec lequel ils sont quasiment nés. Et c'est comme si le rêve était... Vous parlez d'épaisseur historique, hein, de ce que le rêveur a vécu. Et là, on ne rêve pas de la même façon, évidemment, d'une génération à l'autre. Et les objets qui interviennent dans nos rêves ne sont pas les mêmes.
Oui, c'est sûr. Et puis, il y a des décalages. Alors ça, c'est étudié. Par exemple, il y a des gens qui ont étudié les rêves des gens qui ont fait des voyages dans l'espace.
Ah, ça, c'est passionnant.
Ils rêvent pas de l'endroit où ils sont. Ils continuent à rêver des lieux ordinaires, etc.
Il faudrait rester des années, probablement, pour trouver trace.
Par contre, quand ils rentrent, ils peuvent redéclencher des souvenirs de ce qu'ils ont vécu là, mais c'est une temporalité qu'ils utilisent pour parler de choses généralement plus vieilles dans leur expérience. Mais on voit qu'il y a des décalages, effectivement.
Et les rêves des exilés.
Oui, aussi. Alors
plutôt
ça aussi,
à leur pays. Que
absolument. Il y a des gens qui ont travaillé sur des gens qui sont venus en France et au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, ils rêvent toujours de leur village et pas de l'environnement. Il faut qu'ils restent plus longtemps pour que ça s'intègre, effectivement, et que ça participe aux images du rêve.
C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production. Catherine Denet à la technique aujourd'hui. Manuel Couturier à la réalisation. Rafik Zénine. Et dans quelques instants sur l'antenne de France Culture, c'est Christine Bernard que vous retrouvez pour une histoire particulière.